Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on continue évidemment d'évoquer cette journée politique cruciale en France après l'analyse, le décryptage de Véronique Rigolet, place au débat. Un débat politique à un peu plus d'une heure maintenant, hein, environ, du vote prévu des motions de censure à l'Assemblée nationale. Nous recevons ce soir trois sénateurs issus du Parti Socialiste, du Rassemblement National et du Parti Renaissance. Quelle stratégie prône-t-il ? Quelle perspective si la chute annoncée du gouvernement se confirme ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et nos trois invités donc ce soir à mes côtés en studio, Rémi Cardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur socialiste de la Somme, face à vous Aymeric Durox, bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur du Rassemblement National de la Seine-et-Marne, et puis Xavier Iacovelli à mes côtés également, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Je vais commencer avec vous, Xavier Iacovelli. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux deux autres invités dont les chefs de parti ont annoncé bien que dans quelques minutes, ils voteront l'une, si ce n'est les deux motions de censure pour renverser le gouvernement de Michel Barnier?
C'est un peu, pour reprendre le titre d'un film qui vient de sortir, c'est un peu l'amour ouf, en fait, entre les mélenchonistes et les lepénistes. Et aujourd'hui, ils s'apprêtent en tout cas à mettre le chaos dans le pays, à faire en sorte que nous n'ayons pas de budget en faisant tomber un gouvernement qui a essayé malgré tout de faire des compromis, qui a fait des pas vers les uns et vers les autres. Force est de constater qu'à la fois les mélenchonistes d'un côté ont fermé la porte avant même la nomination de Michel Barnier et de son gouvernement, en disant de toute façon, quel que soit le gouvernement, s'il n'est pas issu de nos rangs et s'il n'applique pas à la lettre notre programme, il sera censuré. Quant au Rassemblement National qui avait voulu en tout cas laisser croire qu'il pouvait laisser une chance au gouvernement, à la première occasion et notamment pour contourner les problèmes judiciaires de Marine Le Pen, il s'apprête à censurer aujourd'hui le gouvernement et faire tomber, non pas, c'est pas le cas Michel Barnier qui est important en fait dans cette histoire, c'est surtout que les Français les plus faibles, les plus modestes vont subir les conséquences de cette censure.
Aymeric Durox, c'est faux, vous allez nous expliquer pourquoi, mais est-ce que ça vous gêne pas pour aller dans l'argument développé par Xavier Iacovelli que justement les plus modestes peut-être soient payent le prix de cette motion de censure que votre parti s'apprête à voter?
Je comprends pas très bien cet argument parce que les plus faibles, en tout cas, c'est par exemple les retraités. Or, c'est bien nous qui, par la censure, allons permettre la réindexation des retraites sur l'inflation.
Ça, c'est, je
crois également
une
par
des lignes rouges.
Bien sûr.
Une énième.
Alors que cela représentait 3 milliards d'euros sur le PLFSS, c'est-à-dire 0,5% du total. Si M. Barnier avait voulu véritablement faire un effort envers les plus modestes, il l'aurait fait. Il s'est arc-bouté sur cette non-indexation. Résultat, eh bien, il en paye les conséquences aujourd'hui. Je rappelle aussi que ce projet de budget, complètement délétère et scandaleux pour les Français, c'était 40 milliards de taxes et d'impôts sur les Français. Donc je ne comprends pas très bien l'argumentaire de M. Iacovelli, parce que si on reprend l'imagerie cinématographique, je n'ai pas de titre qui me vienne en tête, mais ce serait un film d'horreur. On l'a dit aujourd'hui, d'ailleurs, dans un article du Parisien, les communicants de Matignon ont dit qu'il faut absolument jouer la stratégie de la peur. Donc je vois que M. Iacovelli et tous ceux qu'on a entendus aussi cette journée ont bien appris les fiches réalisées par McKinsey Parker, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire peur aux Français en disant attention, demain les deep plaids d'Égypte, ils se sont déjà rendus compte lors des trois dernières élections où le camp macroniste a été renvoyé dans leur 22, ils ont perdu trois fois aux européennes au premier tour et au second tour des législatives, et malgré tout ils sont toujours là, donc je crois que les Français ils se rendent compte.
Au-delà de la querelle politique, une France sans budget 2025, c'est pas un film d'horreur?
Mais pas du tout, parce que de toute façon il y aura une loi spéciale telle qu'il y a eu en 79 dans les jours qui viennent, en deux jours, qui permettra aussi de faire des amendements et d'éventuellement régler les petits points d'anicroche, premièrement. Secondement, il y aura de toute façon un projet de loi finances début d'année prochaine, en janvier-février, avec un nouvel gouvernement qui prendra beaucoup plus en compte les desiderata de la majorité relative des Français, de 11 millions de Français qui ont choisi le Rassemblement National.
Ah, donc vous connaissez déjà le futur gouvernement?
Mais c'est évident que je crois que le prochain gouvernement sera un peu plus obligé.
Sera
un peu plus obligé de prendre en compte ce que nous avons décidé. Ah, c'est évident.
Rémi Cardon, sénateur socialiste de la Somme, est-ce qu'en tant que membre du Parti socialiste, ça vous préoccupe que votre parti vote cette motion de censure Parti socialiste, non, historiquement.
On vote la nôtre. Oui,
oui en tout cas, en tout cas, soutiennent la chute du gouvernement. Le Parti socialiste, historiquement, parti de gouvernement, et donc pour reprendre cet argument d'une France sans budget.
Peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent que, en fait, ceux qui ont rejeté le budget qui a été voté, notamment sur la première partie sur les recettes à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national et la Macronie, le bloc. Le fameux bloc central qui est plutôt avec l'extrême droite. Et puis, en réalité, ça, c'est un premier point. Deuxième point, excusez-moi, monsieur Iacovelli, vos propos sont assez drôles parce que je ne sais pas qui a passé le plus de coups de téléphone pour essayer de recoller les morceaux avec madame Le Pen, mais je crois que c'est monsieur Barnier, justement. Donc, en l'occurrence, nous donner des leçons à nous, comme quand on vote. Enfin, c'est pas nous qui votons, c'est le Rassemblement National qui vote un texte qui nous appartient avec notre ligne politique, qui vient annoncer une censure qui était inévitable. Mmh. Inévitable pourquoi ? Parce que vous avez choisi de prélever sur les mêmes personnes, sur les plus modestes, sur les classes populaires, 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, donc, notamment sur baisser les dépenses publiques, 60 milliards d'euros sur l'école, sur l'hôpital, sur la justice, les collectivités. Parlons-en, parce que les collectivités sont aussi touchées dans cette galère. Bref, tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les Français, ils sentent qu'il y a un basculement avec cette censure, mais un basculement vers peut-être un espoir. Parce qu'en fait, ils ont décidé de gouverner par la peur. Mmh. Mais on ne peut pas manipuler les Français ainsi. Pour moi, c'est clairement une erreur. Et aujourd'hui, en fait, vous payez vos erreurs. Ça fait 7 ans que vous gouvernez. Ça fait 7 ans que vous avez réussi à enlever 60 milliards de recettes sur le budget. Maintenant, vous vous rendez compte, comme bon père de famille, oh là là, mince, il nous manque 60 milliards. Excusez-moi. Là, vous voulez qu'on en parle de la suppression de la CVAE, de tout ce que vous avez retiré au fur et à mesure ? Vous voulez qu'on en parle ?
Xavier Iacovelli, attendez. Oui. En écho à ce que nous dit Rémi Cardon, effectivement, le gouvernement a lâché pas mal de lest à l'égard du Rassemblement National. Il y a eu effectivement ces échanges en début de semaine entre Michel Barnier
quand même.
Et Marine Le Pen. L'abandon de la taxe sur la consommation d'électricité, la baisse du remboursement des médicaments à laquelle le gouvernement, dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale, a renoncé. Quel lest avez-vous lâché à l'égard du Parti Socialiste, qui est aussi le parti qui peut empêcher la chute du gouvernement ?
Moi, juste vous répondre sur les points dont vous avez abordé, notamment sur la question des médicaments et de la taxe sur l'électricité. Je vous rappelle que la proposition de revenir, en tout cas de ne pas augmenter la taxe sur l'électricité, ça venait de Prisca Thévenot, en l'occurrence ancienne porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal, et donc du bloc central, enfin du socle commun, si on peut l'appeler maintenant comme ça, du socle commun qui effectivement estimait que nous ne devions pas alourdir la taxe sur l'électricité. Et comme nous avons aussi à la fois déposé des amendements de suppression contre, d'ailleurs, le Rassemblement National et contre le Parti Socialiste et la gauche dans son ensemble, qui voulaient alourdir le coût du travail et augmenter les cotisations et les charges sur les entreprises. Et donc nous avons effectivement voté des amendements à la fois à l'Assemblée nationale, nous avons également fait ça au Sénat, et nous avons permis effectivement d'avoir cette négociation jusqu'en CMP pour éviter d'avoir 4 milliards...
Commission mixte paritaire.
Négociation est un peu de trop, monsieur.
Pour éviter d'avoir... Bah, pardonnez-moi, juste quand on passe de 4 milliards...
On a proposé 110 amendements qui ont été votés dans l'hémicycle, vous avez tout rejeté
Je vous parle pas de négociation
avec vous. Donc on a essayé d'aller vers vous, monsieur, en faisant des propositions.
Juste écoutez ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de négociation avec vous.
Avec le Madame Le Pen, peut-être.
Non, entre le gouvernement et le socle commun, effectivement. Et quand on part avec 4 milliards de taxes supplémentaires... Mais non, pas du tout.
Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord
vous-même. Quand on part avec 4 milliards de charges supplémentaires sur les salaires, d'alourdissement du coût du travail pour nos entreprises, et donc, a fortiori, avec la perte d'emplois à partir de janvier, puisqu'on s'était estimé à 200 000 emplois qui pouvaient être supprimés avec ces alourdissements de charges, effectivement, nous sommes dans la négociation, et le fait d'avoir aussi poussé au niveau de la négociation, nous sommes redescendus à 1,6 milliard d'alourdissement uniquement. Et donc, effectivement, c'est un budget, nous, qui ne nous satisfaisait pas complètement. On n'était pas heureux de ce budget. Parce que quand on passe 7 ans à réduire les impôts sur les Français, quand on passe 7 ans à continuer à avoir des progrès sociaux tout en baissant les impôts... Attendez, juste qu'on soit clair. Moi, je veux bien l'argument... Pardonnez-moi, mais le Parti Socialiste me faire des procès d'intention sur l'abaissement et l'augmentation de la dette. Mais enfin, pardonnez-moi, vous êtes complètement lunaire. Aujourd'hui,
vous voulez qu'on vous rappelle le déficit
pas de règlement sur Hollande.
Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle ? pendant 7 ans.
Rapidement.
Le nombre de crises que nous avons supportées. On peut regarder aussi pendant les lois d'urgence, monsieur, vous n'étiez pas encore... sénateur à l'époque, mais pendant les lois d'urgence, notamment pendant la Covid, où nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger les emplois, protéger les entreprises.
On vous demande pas de revenir en 2020
mais c'est ça la dette.
On vous demande de parler aux Français sur ce qui va se passer dans les prochains mois.
Mais vous savez, les Français se rappellent très bien.
Le budget, c'est sur l'année qui arrive.
Mais vous savez, c'est pas sur les... Vous parlez de la dette. La dette, c'est pas à venir. C'est la dette actuelle. La dette actuelle, on l'explique. Et on assume d'avoir protégé les Français.
C'est pas que
les
deux ans
la différence
COVID.
Avec vous.
J'entends votre désaccord, s'il vous plaît, messieurs.
Avec Marisol Touraine, lorsqu'elle était ministre de la Solidarité et de la Santé, effectivement, avait remis la sécurité sociale au même niveau, enfin, en tout cas, à l'équilibre, au détriment de l'hôpital
public. Pas de règlement de compte, s'il vous plaît, messieurs Durox et Iacovelli. Rémi Cardon, puisqu'on parle négociation.
Non, c'est l'inverse.
Oui.
En tout cas, M. Iacovelli évoque la négociation. Est-ce que le Rassemblement national était prêt à négocier un accord ? Est-ce que, parce que, encore une fois, il y a...
Ceux qui sont engueulés,
c'était... Attendez, je vous pose la question. Oui, mais je vous renvoie à vous la question, pour sortir justement de ce duo. Encore une fois, Michel Barnier a lâché du lest sur de nombreux points concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la tribune dimanche, Marine Le Pen avait dit... qu'elle était d'accord pour ne pas censurer le gouvernement si celui-ci donnait, je cite, « quitus sur la désindexation des pensions », on en a parlé, ou sur le non-déremboursement des médicaments, on en a aussi parlé. Donc l'un ou l'autre. Michel Barnier a lâché du lest sur le remboursement des médicaments et Marine Le Pen n'a pas renoncé à censurer le gouvernement. Est-ce que finalement, le Rassemblement national voulait simplement lâcher du gouvernement avec les conséquences pour votre parti ?
Alors, nous avons... toujours simplement voulu depuis le début protéger les Français. Nous avons exigé en effet un certain nombre, nous avons posé un certain nombre de lignes rouges qui n'ont pas été respectées par le gouvernement. Nous avons dit, et la chose, une des choses les plus symboliques, les plus importantes pour nous, en effet, c'était le problème des retraites. Monsieur Barnier, contrairement là où se trouve son intérêt, l'intérêt de son parti, qui est justement dans le peu qui lui reste, c'est les retraités, il n'a pas voulu faire cet effort-là. Il avait présenté un budget en disant que ce serait deux tiers de taxes, un tiers d'économies. Finalement, où sont les économies ? On l'attendait sur Sabré, sur les comités Théodule, sur le poids de l'immigration, de la fraude sociale, de la fraude fiscale. Rien n'a été fait. C'est un gouvernement mauvais, ni fait ni à faire.
Attendez, la baisse du remboursement des médicaments, c'est une mesure à 800 millions d'euros. Est-ce que vous n'en avez pas déjà demandé beaucoup au gouvernement ? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus ?
Mais pardon, on parle d'un PLFSS de plusieurs dizaines de milliards. Comme je le disais, le problème, le poids de l'indexation, c'était 3 milliards. Ça représentait 0,5% du PLFSS. On ne demandait pas la lune. On demandait simplement justement que les plus faibles soient protégés. Et ça n'a pas été entendu. Mmh. De la même façon que nous n'avons pas eu l'impression d'être respectés par M. Barnier. Il a mis 2 mois à rencontrer la présidente du premier parti de France.
Elle était un peu occupée avec son procès.
Et il a rencontré Marine Tondelier, qui ne représente pas grand-chose, au bout de 2 semaines.
Elle était la première à être reçue, Marine Le Pen, par Michel Barnier la semaine dernière.
Je crois que le prochain, que ce soit M. Lecornu, monsieur, je ne sais plus, on entend des vieux noms là qui reviennent, etc. Je crois que ces gens-là qui seront nommés comprendront qu'il faut nous traiter avec un peu plus de respect. Et je crois que dans l'intérêt des Français, c'est ce qu'ils feront, parce qu'ils ont vu que lorsqu'on n'écoute pas ce qu'on a à leur dire, la sanction, elle est immédiate. Et on ne vote pas le projet politique de LFI, évidemment. On vote un outil qui est la motion de censure.
Vous inquiète pas de voter cette motion de censure pour le Rassemblement national ? Est-ce que vous n'avez pas peur
que nos électeurs.
Vous n'avez pas peur que ça vous éloigne de l'électorat de droite qui manque peut-être au Rassemblement national pour atteindre son objectif du pouvoir en 2027 ?
Ça, c'est un argument communicationnel qu'on a entendu.
C'est une question.
Moi, je vous réponds. Pour moi, c'est de la com. C'est un élément qu'on a entendu ici.
Ça peut être aussi arithmétique sur l'électorat.
Non, parce que je ne crois pas.
Je peux vous dire qu'en tout cas, le milieu économique qui pouvait peut-être être tenté par Marine Le Pen en 2027 ne l'est plus du tout.
Alors, ça fait très longtemps qu'ils sont plus tentés par vous parce que vous leur avez rapporté 1000 milliards de dettes alors que vous avez prétendu être les réserves de la finance. Dans les autres pays européens, ils ont été protégés aussi et pas au prix d'une dette catastrophique.
Ils ont bien compris que le chaos, c'était
vous. Je vous ai laissé vous chamailler avec M. Cardon tranquillement. Non. Si on emprunte aujourd'hui, c'est ça qui est le plus grave, si on emprunte aujourd'hui sur les marchés plus chers que la Grèce, c'est à cause des 7 ans de macronisme qui était soi-disant le Mozart de la finance. On ne peut pas nous reprocher aujourd'hui les conséquences désastreuses de cette politique. On veut un changement de paradigme, on veut un changement changement de politique, ça passe par un changement de gouvernement. Aujourd'hui, demain, ça passera certainement par un changement de président. Et je n'appelle pas là tout de suite à la démission, c'est pas ce que je dis. Mais si on doit attendre 2027, eh bien on attendra 2027, et là, un changement, je pense, radical sera donné sur la politique et sur la vision de la France.
Rémi Cardon, vous vous appelez à la démission du président de la République en cas de chute confirmée du gouvernement ce soir ?
Non, on n'a pas souhaité appeler à la démission du président de la République. Je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, les gens nous demandent tout simplement qu'on règle les choses au Parlement. Et au Parlement, ça demande beaucoup de... Je vais reprendre les trois mots du Premier ministre quand il est arrivé d'ailleurs. Il a dit « écoute, dialogue, respect ». Excusez-moi, mais sur ces trois mots, il l'a surtout fait avec le Rassemblement National. Il a beaucoup écouté Mme Le Pen.
Non, je vais
le
dire, non.
Ah, si, si, si. Bah, si. Il a cédé beaucoup de choses. Et puis,
les deux derniers jours,
on va pas y revenir.
Les coups de téléphone aussi. Il note ça dans un communiqué de presse, excusez-moi. Donc, il est allé dans l'écoute et le dialogue avec Mme Le Pen.
Le PS, c'est
peut-être qu'il l'a pas suffisamment respecté, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a tout essayé. On a fait adopter 82 amendements au PLF, une trentaine au PLFSS, donc les amendements socialistes. Rien n'a été repris, en fait. Ça a été balayé comme ça d'un revers de manche. Donc, si vous voulez, nous, on veut bien travailler au Parlement. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut revoir la méthode. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de pacte de non-censure pour, justement, travailler collectivement au Parlement parce que, en fait, c'est l'avenir des gens qui est en jeu. C'est les Françaises et les Français vont se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire pendant plusieurs mois jusqu'à la date fatidique où Emmanuel Macron pourrait dissoudre, c'est-à-dire au mois de juillet. Au mois de juin, fin juin. Donc, si vous voulez, aujourd'hui...
À partir de juillet, 7 juillet.
7 juillet. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs mois, on a une feuille de route à construire au Parlement. Et désolé, il faut faire des efforts. Et il y a des choses qui ont bien marché. Il y a déjà des PPL transpartisanes sur les déserts médicaux. Il y a des amendements sur les super profits qui ont été votés avec le MoDem. Il y a des choses qui peuvent avancer.
Mais le Parti socialiste n'avait pas d'autre choix. Ne pouvait pas se désolariser de la France insoumise, par exemple, de la motion de censure.
Regardez,
pourquoi est-ce que le Parti socialiste, par exemple...
Mais vous me posez une question.
J'ai posé la question à Xavier Iacovelli. Vous pourriez aussi être le parti qui revient sur le devant de la scène en ne provoquant pas, ce soir, la chute du gouvernement Barnier.
Mais parce qu'on veut repartir sur des bases saines. Aujourd'hui, les bases ne sont pas saines. On a tout essayé. On voit que ça ne marche pas par le biais d'amendements et par le Parlement. Donc nous, on veut que le gouvernement tombe, qu'on reparte sur une nouvelle feuille de route. Et désolé, le centre de gravité, il doit revenir vers la gauche. En fait, c'est M. Debré qui disait tout à l'heure, je l'ai entendu, il disait en gros, le problème de Macron, c'est qu'il utilise la dissolution, et le but de la dissolution, c'est de demander l'avis à son peuple de qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il veut réellement pour le pays. Et en l'occurrence, il a ni respecté le vote du peuple, et en plus, derrière, il nomme un Premier ministre qui incarne l'un des plus petits groupes à l'Assemblée nationale, les Républicains. On marche sur la tête. Donc si il faut revenir, les gens sont inquiets. Ça, il faut l'entendre. Et donc, ça veut dire qu'il faut calmer le jeu et travailler collectivement au Parlement.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Le jour de la censure en France, on poursuit évidemment notre réflexion alors que dans... une heure environ, les motions de censure doivent être examinées à l'Assemblée nationale. Nos trois invités ce soir sont tous membres de partis politiques. Rémi Cardon, que l'on entendait, sénateur socialiste de la Somme. Aymeric Durox, sénateur du Rassemblement national de la Seine-et-Marne. Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. J'aimerais qu'on se projette sur, dès ce soir... puisque, encore une fois, les forces politiques en présence ont annoncé qu'elles voteraient les motions de censure. En tout cas, ça s'annonce inéluctable, puisque le Rassemblement national a annoncé qu'elle soutiendrait, qu'elle voterait la motion de censure qui précipiterait la chute du gouvernement. Le président français, Xavier Iacovelli, Emmanuel Macron, s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit qu'il souhaitait nommer, en cas de chute du gouvernement Barnier, un Premier ministre dès samedi. À quel profil est-ce qu'on peut s'attendre ?
Moi, vous savez, depuis le début, depuis d'ailleurs 2022, depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue au Parlement, j'ai toujours appelé de la droite républicaine, un rassemblement de la droite républicaine aux écologistes et socialistes, en tout cas les partis de gouvernement, ceux qui étaient en capacité et ceux qui avaient vocation à diriger notre pays, en excluant les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche avec les mélenchonistes ou l'extrême droite avec les lepinistes. Cette porte, elle a été fermée systématiquement du côté de la gauche. Et moi, je suis issu du Parti Socialiste. Donc, j'ai connu ce Parti Socialiste.
Vous avez décalé le curseur, monsieur Iacovelli.
La gauche a réclamé aussi, à l'issue des législatives, que ce soit une personnalité de gauche qui soit nommée Premier ministre.
Attendez, je veux bien qu'on refasse l'histoire. Vous arrivez peut-être en tête.
Oui. Mais, enfin, avec le Front républicain.
Si je peux me permettre de finir une phrase.
Bien sûr, allez-y.
Vous n'arrivez pas en tête, c'est-à-dire que quand on regarde les trois blocs, le bloc d'extrême droite,
c'est nous, le bloc national, s'il vous plaît,
le bloc d'extrême droite, le bloc central, enfin le socle commun et le bloc de gauche, c'est le socle commun qui est
quel
en tête.
Commun?
Alors effectivement, votre de pas grand-chose, qui n'est pas
Attal.
Majoritaire, qui n'est pas majoritaire, mais
il a tout fait
aujourd'hui,
pour s'amener à la
c'est
de
aussi
Darmon.
Le socle commun qui est le premier, qu'on le veuille ou non. Moi, je pense que on a nécessité à s'ouvrir et à travailler avec les socialistes et les écologistes qui sont démélenchonisés, on va dire.
Mais jusqu'à aujourd'hui, nommer un premier ministre de gauche.
Mais moi, j'ai pas de problème à ça. Vous savez, moi, je soutenais la candidature de Bernard Cazeneuve quand l'éventualité au mois de septembre était sur la table. Ceux qui ont bloqué la candidature de Bernard Cazeneuve, c'est pas les macronistes, c'est les socialistes qui ont bloqué. Olivier Faure a, dans son expression publique, dans la presse, et je pense que vos auditeurs pourront retrouver ça sur Internet, a dit on ne soutiendra pas et on censurera un gouvernement qui n'est pas mené par Lucie Castet. C'est clair. Et donc, il ne voulait pas de Bernard Cazeneuve. Et quand je vois un ancien président de la République, en l'occurrence François Hollande, avec Olivier Faure, qui est mélenchonisé au possible, aujourd'hui voter la censure main dans la main avec les lepenistes et avec les mélenchonistes, je comprends l'intérêt électoral pour les socialistes de s'allier avec Mélenchon, mais tant qu'ils ne se feront pas... je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus des sociodémocrates. Il y en a 7 du Parti Socialiste sur les 64 qui vont refuser de voter la censure. 7 seulement.
Rémi Cardon, vous êtes sénateur socialiste. Est-ce que vous accepteriez de faire partie d'un projet de coalition du gouvernement qui suivrait celui de Michel Barnier ?
Mais moi, je vais répondre très simplement. Déjà, je ne veux surtout pas qu'on parle du qui. Je veux qu'on parle du quoi. Qu'est-ce qu'on propose aux Françaises et aux Français.
Mais sur
quoi
principe,
la feuille de route?
Vous n'êtes pas opposé à une coalition?
Mais c'est vous qui avez pas
répondu. Je réponds
s'ils
à votre
font
question.
Ça, ils sont plus députés.
C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on se focalise sur le qui, là, dans l'absolu.
Non, c'est pas qui, c'est quoi?
Ouais, ben, quoi, qu'est-ce qu'on propose aux Françaises et aux Français? Donc moi, je trouve qu'il faut trouver des points de convergence et cadrer avec des lignes rouges. Voilà. Et ça c'est possible de le faire. C'est possible de le faire dans les prochains jours. Mais encore faut-il que Emmanuel Macron ne passe pas son temps à chercher le qui, notamment à droite. Parce qu'il a déjà annoncé que ça allait être quelqu'un de droite. Et c'est-à-dire qu'il est vachement ouvert, le monsieur, quand même, hein, le président de la République.
Alors, est-ce qu'il peut nommer, encore une fois, quelqu'un qui aura voté une motion de censure pour renverser son gouvernement?
Bah, j'en sais rien.
En tout cas, membre d'un parti qui aura soutenu la chute du gouvernement.
On lui demande juste de choisir la personne qui est capable d'incarner le quoi, qu'est-ce qu'on va faire pour les Français dans les prochains mois, jusqu'au mois de juin. Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça qu'il faut démêler. Okay. Et en fait, on a juste à regarder ce qu'on s'est raconté dans nos débats dans l'hémicycle, avec des amendements qui ont été adoptés. Il y a des points de convergence. Il y a bien des amendements qui ont été adoptés avec une coalition. À part si, effectivement, les macronistes étaient absents dans l'hémicycle, ça c'est peut-être un autre sujet. Ils ont peut-être voulu fuir le débat pour éviter le 49-3 trop vite. Mais j'en sais rien. Mais bref, c'est tout ça. Si vous voulez, moi je pense qu'au bout d'un moment, faut on parlait justement des mots clés de Michel Barnier sur l'écoute, le respect et le dialogue. Bah voilà, repartons dessus. Mais c'est, lui, pour le coup, c'est un échec. C'est dommage que ça soit pas incarné par des faits, en fait.
Aymeric Durox, du Rassemblement National. Vous, encore une fois, vous soutenez la chute du gouvernement. Qu'est-ce que vous proposez après?
Mais pourquoi on est dans cette situation bloquée? Pourquoi on est dans cette situation bloquée aujourd'hui? Avec, en effet, un groupe parlement, l'Assemblée nationale, divisé par trois.
Parce que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale.
Et parce qu'il y a eu des apparentements et des choix scandaleux, antidémocratiques, avec des alliances. Les uns se sont fait la courte échelle aux autres.
On protège juste la République.
Les PS, d'accord, vous êtes scandaleux.
On protège juste la République.
Il nous reste quelques
alors,
minutes.
Pour parler du Parti Socialiste, parce que ça, c'est grotesque. Ça marchait peut-être il y a 30 ans, j'en argument, monsieur, mais le peuple français a tranché. Le PS pour le peuple français. C'est 1,6%. 1,6%. Voilà ce que vous
qu'est-ce
représentez
que vous
pour
attendez,
le peuple français.
Qu'est-ce que vous attendez en tant que
vous avez
qu'est-ce que vous attendez
Bon, voilà, c'est déjà mieux.
Bah oui, c'est mieux, mais c'est pas génial.
Malgré
quand même.
Les efforts du RN, pardonnez-moi, mais malgré les efforts du RN pour la stabilité, la réalité, c'est que le RN, c'est le chaos et c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. En fait, ça n'a pas changé.
Vous avez bien appris par cœur les fiches McKinsey. C'est génial.
Mais détendez-vous, McKinsey est
sorti. C'est vraiment.
C'est pas nous qui sommes accusés.
Ça faisait 30 minutes que c'était pas sorti, c'est génial.
Donc, pardon, qu'attendez-vous en tant que membre du Rassemblement National du futur gouvernement?
Mais tout simplement un gouvernement qui soit plus à l'écoute de nos revendications. c'est-à-dire des revendications légitimes qu'on représente et qui représentent 11 millions de personnes.
Et donc
c'est-à-dire notamment, eh bien je l'ai dit à maintes reprises, c'est-à-dire...
Parce que même vous ne savez pas comment les financer. Donc,
bien sûr que si. On veut déjà, pour financer des choses, évidemment, il faut sabrer dans les dépenses de l'État, c'est-à-dire au niveau des comités Théodule.
Combien ça d'économies, et lesquelles?
Écoutez, moi je ne vous ai pas interrompu lorsque vous chamaillez avec monsieur, donc merci de me laisser terminer. Il y a eu un rapport de l'IFRAP qui disait qu'il y avait 80 milliards d'euros qui étaient répartis dans les différents comités Théodule, les opérateurs de l'État. Je ne dis pas qu'il faut tous les sabrer, je dis qu'il y en a évidemment. Il y a 17 milliards dans la fraude sociale. Il y a une immigration incontrôlée qui représente 40 milliards. Ah bon, c'est pas un problème l'immigration? Ah mais d'accord, les Français seront d'accord et heureux de savoir que c'est pas un problème. Pour PS qui fait 1,6% et pour un parti qui a fait quoi 14-15% aussi aux élections européennes. Vous avez dit qu'on était un danger pour la République.
Votre argument, pour porter ces revendications qui sont effectivement portées par de nombreux Français, puisque l'électorat du Rassemblement National est important, mais quelle couleur politique, quelle personnalité pour incarner cela?
Je ne suis pas à la place de M. Macron ni à la place du Bloc central qui n'a de...
Non mais
bloc
comment satisfaire le Rassemblement National demain? C'est ça la question.
Mais tout simplement, un gouvernement et un Premier ministre qui fera beaucoup plus attention à ce qu'on demande et qui n'attend pas 3 mois avant de nous recevoir et qui n'attend pas les 2 derniers jours avant de nous donner quitus, comme vous avez dit, sur des points qui sont extrêmement importants. M. Barnier a voulu jouer, il a perdu. Et maintenant, ce sera quelqu'un d'autre de plus responsable qui fera attention non pas aux desiderata d'un petit parti comme le Parti Socialiste, mais un parti qui a parti de masse. Voilà.
Xavier Iacovelli, est-ce que le RN est voué à être maître du jeu politique?
Mais moi, je ne le pense pas, et je ne le pense pas depuis, d'ailleurs, les élections législatives, puisqu'aujourd'hui, ceux qui ont réellement dans la main la stabilité d'un gouvernement d'union nationale, d'une coalition large, c'est aujourd'hui le groupe socialiste, puisqu'ils sont 64. Les 64 élus députés socialistes avec le socle commun, ça permet d'avoir une majorité, ça permet d'avoir, non pas... Enfin, vous êtes dans tous les pays européens aujourd'hui.
Ils ont la possibilité
ils ont de faire des contrats de gouvernement, de travailler sur des contrats. On vient avec nos propositions. C'est le propre de la social-démocratie et c'est le propre d'ailleurs de ce que les partenaires de M. Cardon à l'échelle européenne font dans leurs différents pays. En Allemagne, la CDU et le SPD font des élections.
La coalition, elle a éclaté en Allemagne.
Mais elle n'a pas éclaté.
Monsieur Iacovelli, est-ce que vous pensez qu'il faut une proportionnelle? C'est ce que M. Macron avait dit en 2022. Pourquoi il ne l'a pas fait?
Je pense qu'effectivement, aujourd'hui.
Encore une promesse non tenue. La banque de la démocratie, il n'a pas tenu.
Je pense effectivement qu'il faut un projet. Moi, j'étais très...
Pourquoi les députés PS ne font jamais rien? Parce qu'ils sont soumis à Mélenchon.
Si la coalition n'a pas fonctionné au sortir de l'été, pourquoi elle fonctionnerait maintenant?
Mais parce que la coalition n'était pas majoritaire. Ce qu'il faut pour que la coalition fonctionne, c'est qu'elle soit majoritaire et qu'il n'y ait pas une majorité contre cette coalition.
Donc, il faut juste recentrer cette coalition...
Vous le savez très bien, vous venez de le dire.
Lorsque vous aurez décidé de rompre avec l'extrême gauche de Mélenchon, oui, nous pourrons travailler ensemble.
Mais
c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un blocage. Nous ne voulons pas travailler avec les extrêmes.
Merci, messieurs. Bon, très bien. Ce sera le mot de la fin. On a bien compris que la situation politique est tendue. On est à 3 quarts d'heure environ du vote des motions de censure qui appelle à faire tomber le gouvernement Barnier. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce débat. Rémi Cardon, sénateur socialiste de la Somme, Aymeric Durox, sénateur Rassemblement National de la Seine-et-Marne, et Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci à Florence Ponce et Camille Néran à la préparation de ce débat, Claude Battista à la réalisation. Évidemment, on va continuer à parler de cette actualité française qui est très forte ce soir, cette actualité politique. On attend dans quelques dizaines de minutes le vote des motions de censure, dans une minute le grand journal du soir, puis la tranche d'information et puis notre édition spéciale à suivre dans un peu plus d'une heure. Dans 30 minutes d'ici là, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir Sylvie?
Le Niger avec l'arrestation arbitraire de Moussa Tchangari, figure de la société civile, il a été interpellé chez lui hier soir à Niamey. Le deuil et la colère en Guinée-Conakry après la bousculade meurtrière dimanche au stade Nzéré-Koré. Le bilan officiel communiqué est toujours de de 56 morts, mais selon le collectif régional des organisations de défense des droits humains, il s'élèverait à 135 victimes. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et l'alerte sanitaire dans le Congo. C'est une province de l'ouest du pays. Depuis plus d'un mois, un nombre important de décès a été recensé dans la zone de Panzi. Les autorités tentent de comprendre l'origine de l'épidémie. Et puis nous parlerons de l'Angola et de cette importante réunion de plusieurs chefs d'État africains avec Joe Biden sur le corridor de Lobito. C'est un projet majeur d'infrastructure. Il est destiné à relier l'Atlantique à l'océan Indien via la RDC.